Invisible.
Invisible.
C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Pour cet épisode, je reçois une autrice, blogueuse et illustratrice à qui l'on doit le très très bon livre « On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités ». Bonjour Daisy Le Tourneur.
Bonjour.
Bienvenue chez Visible et merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Alors il y a ton livre « On ne naît pas mec » et surtout, tout a commencé avec ton blog « La Mexpliqueuse ». Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce blog en 2017 ?
Alors, ça remonte à un bail, mais en fait, la Mexpliqueuse, donc ce blog, à la base, il s'appelait le Mexpliqueur, puisque c'est un projet que j'ai commencé avant le début de ma transition. Et en fait, il y avait plusieurs volontés derrière. Déjà, il y avait la volonté de trouver un peu un travail créatif d'écriture, parce que c'est ma passion. Il y avait aussi la volonté de parler un peu de féminisme, parce que c'était un autre sujet qui me touchait beaucoup et dont je me sentais très concernée. Et puis, c'est un sujet sur lequel j'avais l'impression qu'on ne parlait pas aux hommes, on ne parlait pas forcément des hommes du point de vue des hommes. Et en fait, on laissait un peu ces questions-là à des masculinistes, à des sorales, à des amours, etc. Donc, je voulais un peu porter cette voix-là. Après, il s'est trouvé que assez rapidement, dans ce projet-là et dans d'autres choses dans ma vie, je me suis retrouvé face à ça a renforcé mes questionnements personnels par rapport à mon genre. Et en fait, un an plus tard, j'entamais un processus de transition.
Et comment les arguments sont venus, en fait ?
C'était assez simple au début, en tout cas. C'était vraiment, je prends une idée reçue. Qu'est-ce qu'on dit sur les hommes ? Pourquoi on dit que les hommes sont immatures ou mûrs plus tard que les femmes ? Pourquoi on dit que les hommes sont plus naturellement colérique ou naturellement plus fort, plus etc. Et à chaque fois essayer d'y répondre en me disant alors d'une part est-ce que c'est vrai, est-ce que les hommes sont plus immatures, et si oui ou si non, pourquoi donc on dit ça, et à quoi ça sert, et qui ça sert ce discours?
Et alors, pourquoi on dit que les hommes sont plus immatures ?
Alors, sur le truc de l'immaturité, par exemple, j'ai commencé par, dans ce process-là, vraiment me dire comment on peut mesurer la maturité. Et déjà, il y a plein de définitions, c'est pas évident, mais il y a un certain nombre de trucs qui font que on peut dire, je pense, que les hommes sont en général plus immatures que les femmes, ou qu'ils mûrissent plus tard. La première des raisons, c'est peut-être que ils se mettent en couple plus tard, généralement avec des femmes moins âgées qu'eux, en tout cas dans le cas des hommes hétérosexuels. Ils vont aussi avoir davantage de comportements à risque, et ça tout du long de leur vie. Le côté immaturité, je pense que j'ai pas eu trop de mal à le prouver. Je me suis dit, si on dit ça et que c'est vrai, pourquoi est-ce que exactement c'est vrai ? Et moi, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que on a tendance en fait à responsabiliser les femmes bien plus vite et bien plus tôt, faire comprendre que elles doivent se caser plus tôt, elles doivent faire des enfants rapidement parce que l'horloge biologique, machin, tout ça, elles doivent avoir des comportements en fait plus responsables, parce que sinon elles vont se faire violer, elles vont plus aucun mec voudra d'elles, elles vont avoir un enfant et se retrouver seules, etc. Enfin, en gros, on fait peser beaucoup de responsabilités aux femmes, ce qui forcément les oblige finalement à avoir plus tôt, plus vite, des comportements jugés matures. Et pendant ce temps, on pardonne du coup, à l'inverse, beaucoup aux hommes en leur disant bah, « c'est normal que vous soyez immature, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça ». Et on leur crée un ensemble d'espaces de liberté finalement à exploiter dans leur jeunesse et même tout au long de leur
vie. Oui, même après du coup. Moi j'aime beaucoup ce que vous racontez, notamment sur les émotions. Et sur la seule émotion qu'on laisse aux hommes, la colère, j'ai trouvé ça assez, assez brillant comme démonstration.
Ouais, sur les émotions, effectivement, il y a pas mal de psy, notamment, qui ont travaillé là-dessus et sur la façon dont on interdit, en fait, pratiquement aux petits garçons d'exprimer leurs émotions. Celles qui ont travaillé dessus, comme la psychologue Niobe Way, a montré que, bah, en gros, les enfants, en général, les garçons en tout cas, vont avoir dans leur enfance, à l'école maternelle, etc., une capacité à exprimer des émotions avec une richesse émotionnelle, etc., qui n'a rien à envier aux petites filles du même âge. Et puis, petit à petit, il y a un moment entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence où ils vont perdre cette capacité, ils vont vachement se renfermer sur eux-mêmes. Devenir vraiment les hommes qu'on connaît maintenant. Alors évidemment, on va dire c'est pas tous les hommes, hein, et bien sûr, mais on va leur dire, ils vont être un peu handicapés émotionnellement, avec une incapacité à exprimer des émotions simples, parce que tout simplement, on leur a appris que c'était dangereux pour eux, que c'était pas très masculin, que ça fait pédé, que ça fait fille, que
oui, voilà. Tout ce qui est féminin, suspect et suspect du coup.
Voilà, tout ce qui est féminin et homosexuel et tout ça, finalement, c'est un peu la même chose. Et vraiment, on le voit chez les petits garçons qui grandissent, ils deviennent un peu passionnés d'avoir l'air fort et stoïque et un peu vache et méchant, etc. Des fois, c'est même un peu mignon, mais en fait, c'est tragique. Pourquoi ils font ça, en fait? On en revient aussi à la question, c'est au-delà du constat, j'essaye de me demander à quoi ça sert, en fait. Et à chaque fois, qu'est-ce qui... le truc auquel on revient toujours, c'est que c'est des outils de la domination masculine. Et par exemple, le fait d'être renfermé sur soi-même et au niveau des émotions, etc., d'une part, je pense que ça permet, pour les hommes, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, d'être en position de force face à des femmes qui sont à la recherche d'émotions, de connexions émotionnelles. On leur a vendu le prince charmant et le fait d'exister à travers leur relation à un homme, et l'amour, c'est magnifique, et machin, tout ça. Et en face, elles ont une espèce de grosse brute dont la seule émotion dont il est capable, c'est la colère. Enfin, ça fait que beaucoup, beaucoup de mes copines hétéros, face aux mecs, sont très émues quand un mec pleure, très soucieuses de ses émotions, parce que c'est rare, quoi. Mmh. Et elles sont à la fois en demande de ça, et elles vont super respecter ces émotions-là des hommes, parce que ce serait des choses rares. Et ça crée pour moi un déséquilibre dans le couple. Et après, bah, y a l'émotion particulière des hommes qui est... parce que j'aime pas quand on dit que les hommes sont pas émotifs. Parce qu'en fait, les mecs, ils tapent contre des murs, ils s'engueulent, ils s'emportent, ils ont en fait beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup d'explosions d'émotions, en fait, mais qui sont pas perçues de la même façon. La colère, c'est une émotion bien davantage respectée chez les hommes que une femme qui est qui pleure. Voilà, d'ailleurs, les hommes qui pleurent, on va leur dire t'es une chialeuse, quoi. Mmh.
Une femme en colère, on va lui dire qu'elle est hystérique.
Exactement. Et la colère, ça, enfin, ça marche en fait, ça apporte des résultats. Ça peut être beaucoup intimider la personne d'en face, et voilà pourquoi, pourquoi c'est l'outil des hommes en fait.
Oui, mais ça participe ce que tu dis dans la démonstration, c'est que ça participe d'un système d'oppression et de domination. Et c'est vraiment au début du livre, hein, si je me rappelle un peu de la construction, ça m'a vraiment, c'est vraiment une partie qui m'a marqué. Alors beaucoup d'autres parties m'ont marqué, mais celle-là, je me suis dit waouh, tellement, en fait, tellement juste. On va parler du livre un peu plus tard. La création de ton blog, je le disais, c'est 2017, donc c'est juste un petit peu avant MeToo, c'est avant ta transition. Et du coup, comment étais-tu perçue dans ton genre d'origine en tant que féministe ?
Eh ben, plutôt bien. j'ai eu assez vite avec ce blog un certain succès qu'avaient pas toujours eu toutes mes entreprises créatives, on va dire. J'avais l'impression que dans les milieux féministes et dans les milieux médiatiques, en fait, il y a une grosse demande, et j'ai pu le constater avec d'autres personnes aussi depuis, il y a une grosse demande pour les hommes féministes, en fait. Et c'est assez facile de se faire remarquer et de se faire donner une plateforme et un porte-voix quand on est un mec féministe. On peut le voir aujourd'hui avec des mecs comme le youtubeur Ben Nevers, qui fait toute sa petite carrière sur être un homme féministe, déconstruit, machin, tout ça. Il y a un créneau vraiment à prendre. Moi, avec à peine quelques articles de blog de publier, j'ai eu des demandes pour être invité dans des podcasts, pour être invité sur à la radio, tourner un documentaire. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses qui se bousculaient, et c'était étonnant, et ça aurait pu, je crois, me monter à la tête assez vite. Après, bah, il se trouve que j'ai entamé mon parcours de transition, et j'ai un peu ralenti le rythme sur le blog, et pris le temps d'écrire un livre plutôt, etc. Parce que sinon, franchement, j'aurais pu, passer assez vite à la vitesse supérieure et devenir un peu plus médiatique, un peu machin. Je dis ça, bon, maintenant je suis invité dans un podcast encore, et je suis et la semaine dernière je suis passé sur Radio Campus, donc aujourd'hui, avec le livre qui marche pas mal, j'ai quand même des opportunités, mais disons que c'était, j'ai pas choisi la voie la plus facile. Et pour moi, ce truc, de cette demande en fait de l'homme, de l'homme hétéro, déconstruit, féministe, et tout ça, c'est vraiment quelque chose de, enfin, qui m'a pas mal éclairé. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça, parce que ça me renvoyait à ma position d'homme, mais aussi, si vous voulez, je dis vous, mais on se tutoie en fait. Si tu veux, en fait, il y avait eu, après MeToo, pas longtemps après, une tribune qui a été publiée dans Libé, je crois, qui était à l'initiative de Michel Hazanavicius et de je ne sais plus qui, parce que en gros, il y avait MeToo qui était principalement au départ une histoire liée à Harvey Weinstein, le producteur de cinéma, et du coup Michel Hazanavicius et ses potes du ciné ont voulu faire une tribune pour dire oui, les femmes, on vous comprend et on vous soutient, et c'est super. Mais ne nous mettez pas tous dans le même panier, machin.
Notamment.
Ouais, voilà. Et en fait, en n'ayant pas d'autre argument que oui, on vous écoute, et c'est bon, on peut recontinuer à à vivre tranquille dans exactement le même système et un système qui est patriarcal et qui est hétérosexuel. Et en fait, eh ben, il y avait aussi de l'autre côté des féministes qui étaient des femmes féministes hétérosexuelles qui étaient très en demande de ça, finalement, de l'homme déconstruit, du mec avec qui il est possible d'être en relation hétérosexuelle tranquille quand on est féministe. Et moi, je crois que il y a un côté réac en fait à ça, un réactionnaire hétéro où on veut revenir à la tranquillité, on veut revenir à l'ordre et en fait les appels à la tranquillité et à l'ordre tant qu'on n'a pas obtenu l'égalité et qu'on n'a pas tout foutu par terre du système hétéro-patriarcal, pour moi c'est trop tôt.
Et d'autant plus alors. C'est une question que je réserve pour plus tard, mais on va continuer comme ça. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on se déconstruit, parce que je comprends pas, enfin, j'aime pas trop ce mot en fait. Je trouve que, mais à un moment, on a dans ces lectures féministes ou LGBTQIA+, on a forcément un biais, mais quand on est hétéro, on a forcément un biais aussi. Et je trouve que le chemin, il est impossible de revenir en arrière une fois qu'on a commencer à voir que le système, quand on est, je pense que quand on est un mec blanc hétéro bourge, on se pose pas de questions et puisqu'on est au top de la pyramide de domination. Mais quand on est en dehors de l'hétéropatriarcat et qu'on commence à se poser des questions, à s'enseigner et tout, on peut pas revenir en arrière en fait. Dès qu'on voit le monde tel qu'il est en se disant waouh, ok, ma vision du monde elle est comme ça, c'est pas possible. Je trouve qu'il y a pas de chemin inverse possible.
J'ai l'impression qu'il y en a qui ont réussi à le prendre quand même ce chemin, y compris dans les communautés LGBT. Hein, on a nos réacs à nous, mais en tout cas, oui, pour moi, ça a été ce parcours, la transition, devenir passer de mec hétéro à femme lesbienne. Ça a été une grande. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, on va dire, radicalisé sur d'autres aussi. On s'en prend pas mal dans la gueule. Alors après, je pense pas que on puisse dire que j'étais le mec hétéro classique et totalement correspondant à tous les clichés de la masculinité hégémonique, machin, tout ça. Je partais peut-être pas de zéro, j'étais pas mascu, mais il y a un monde entre voir les oppressions de l'extérieur et de l'intérieur et les vivre dans sa chair, quoi. Et je pense aussi que si on est, on va dire, un minimum ouverte d'esprit et qu'on a un peu d'empathie, ça ouvre aussi les yeux sur certaines autres luttes. Les luttes antiracistes, les luttes antivalidistes, etc.
Oui, je trouve qu'au bout d'un moment, le panel s'élargit et fait du bien, en fait. Une question qui me vient à l'esprit, c'est... en écrivant le blog et peut-être le début du livre, est-ce que ta transition a nourri ta pensée et tes articles, ou c'est les articles qui aussi ont nourri ? Tu l'as fait un peu en même temps, comment ça s'est nourri tout ça ?
Je pense que ça a été dans les deux sens, effectivement. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que j'ai transitionné juste parce que j'ai fait ce blog et que, et que voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Évidemment, j'ai aussi une vie personnelle et des émotions et je ne suis pas qu'une créature de réflexion intellectuelle qui m'aurait fait parvenir à la conclusion que je devais transitionner à la fin. Pour prendre un exemple, je me suis au tout début, j'ai écrit sur la drague, sur essayer de faire la différence entre la séduction et le harcèlement. Et j'écrivais ça au début comme un mec hétéro avec mon expérience de mec hétéro. Et honnêtement, je me débattais avec le truc et j'étais pas hyper. hyper satisfaite à la fin de ce que je pouvais dire parce que je trouvais pas exactement la solution. Et pour moi, rétrospectivement, je crois que c'est que il n'y avait pas de solution satisfaisante pour moi parce que j'étais pas à ma place dans ce débat et dans et franchement j'étais nul en séduction aussi, donc ça n'était pas et aujourd'hui au final j'ai repris ces trucs du blog pour écrire le bouquin, pour reprendre le sujet, et en ayant derrière moi quelques années d'expérience en tant que femme trans qui fait des rencontres en milieu lesbien qui a une toute autre expérience et un tout autre point de vue maintenant. Et je ne dis pas que j'ai trouvé une solution, je le dis clairement dans le livre, je n'ai pas une solution à apporter pour les hétéros, pour leur dire comment faire pour draguer sans être un harceleur relou, comment savoir à quel moment vous pouvez faire ci ou ça. J'ai pas écrit un manuel de bonne manière et parce que je pense que c'est pas possible en fait de s'extraire, de trouver une manière d'avoir des relations hétérosexuelles qui seraient libres de toute libre du patriarcat, parce que non, donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire avec ou faire sans si on est gay ou lesbienne ou bi, mais dans tous les cas, ça veut pas dire que j'ai interdit non plus aux hétéros et aux mecs hétéros la séduction, mais venez pas, cherchez pas une solution qui rendra vos relations hétérosexuelles safe et parfaites et qui les feront exister en dehors du patriarcat, parce que, encore une fois, ça n'existe pas, même avec toute la déconstruction du monde.
Ouais, c'est clair. Daisy, le tourneur, je dois te dire merci. Ici, on m'a souvent reproché d'être misandre. J'assume. Je sais où je me définis dans mon genre et où je suis dans l'échiquier LGBTQIA+. Je dois te dire merci, car c'est le livre que j'ai toujours attendu concernant ma vision des hommes. Tu abordes tous les thèmes de leur nuisance sur les femmes, sur la société et entre eux. Pas que des thèmes de nuisance, mais moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ma vision personnelle. Alors, parlons du livre. C'est fourni, il y a un travail dense, dingue. À chaque fin de chapitre, tu proposes ou tu conseilles des lectures pour aller plus loin sur une thématique précise. C'est bourré de références. Sont présentes Rebecca Solnit, Judith Butler, Liv Stromquist, Alice Coffin, Bell Hooks, bien d'autres, des podcasts, chaîne YouTube. C'est un travail titanesque. Comment, et vraiment, vraiment, comment as-tu abordé l'écriture de ce livre ?
Alors, ça a été un long projet, en fait, et c'est ce qui fait que, je pense, il est dense, effectivement. C'est qu'en fait, c'est pas un livre que j'ai écrit en 3 mois. C'est un livre qui a commencé avec le blog, en fait, et où j'ai été approché en 2019 par mon éditeur Zone, qui est une collection de la découverte, et ils m'ont proposé de prendre le blog et d'en faire un livre. Moi, j'ai dit OK, mais j'étais en plein dans les débuts de ma transition et j'étais assez occupé. Je leur ai dit ça va prendre du temps. ce qui est cool, c'est qu'ils ont été totalement OK avec ça. Et du coup, le plus gros du livre, en vrai, je l'ai écrit en 2020, pas mal pendant le premier confinement, notamment, parce que c'est pratique, on a du temps.
Tu m'étonnes.
Et en fait, voilà, ce bouquin, c'est le condensé de non seulement... des mois passés à l'écrire, mais des années avant passées à réfléchir sur le sujet, à lire sur le sujet. Il y a en toute modestie, il y a un gros boulot derrière.
C'est énorme.
Et j'avais aussi, moi, c'est mon premier bouquin. J'aime pas quand j'achète un bouquin ou que je sens qu'au final... on l'a payé 15 balles ou 20 balles et on l'a lu super vite et on sent qu'il a été écrit super rapidement sans vouloir jeter la pierre à personne, parce que je sais que c'est pas toujours rentable d'écrire un livre autrement que super rapidement. Il y a tout un tas de pressions. Moi, j'ai eu quelque part le luxe je pouvais me permettre de pas faire ce livre dans l'urgence. Et j'ai l'impression que ça se sent et ça fait plaisir.
Ah, mais ça sent totalement. Enfin, c'est sourcé à tel point que moi, en fait, ce que je trouve génial aussi dans la démarche de sourcer à chaque fin d'article, c'est un peu genre, si vous avez des questions, eh ben lisez ça. Je trouve qu'à chaque fois, en fait, ça... C'est pas comme donner une leçon, mais c'est juste se débarrasser aussi d'un débat qui peut être relou avec des lecteurs. Et une autre question, c'est comment tu as décidé de cette forme ? Parce que donc il y a les sources à la fin, il y a les arguments avant et tout. Il y a aussi ces illustrations qui sont super drôles et un style d'écriture qui est que moi je trouve drôle. Alors, je sais pas s'il est perçu par tout le monde comme drôle.
Il y a un certain nombre de personnes qui le trouvent drôle.
Voilà. Mais comment tu as décidé, comment tu as abordé l'écriture, enfin, pardon, comment tu as décidé de cette forme assez précise?
Alors, en fait, c'est vrai que c'est une. À la base, je pense que ça vient beaucoup du blog où j'ai l'habitude. Moi, j'ai beaucoup écrit, notamment en tant que journaliste, pour des blogs. Et en fait, c'est des formes ou des formats où on doit faire court, où on a l'habitude de, dès qu'on parle d'un truc, on met un lien. Et aussi, on a les commentaires en dessous des gens qui te demandent de te justifier. Donc, tu as intérêt à mettre les liens, à mettre les sources, etc. Sinon, en fait, on va te tomber dessus. Et très, pour moi, j'ai beaucoup finalement appris à écrire comme ça, notamment en étant journaliste, mais aussi en étant juste utilisatrice d'Internet, à pas raconter, à savoir que tu peux pas raconter de la merde sortie de ton chapeau parce qu'il y a des gens qui vont te tomber dessus. Donc, le côté fournir les sources, pour moi, c'est, on va dire, c'est un réflexe, c'est la base, et malheureusement, ça l'est pas pour tout le monde, mais voilà. Et notamment, des fois, je vois des gens qui ne mettent pas leur source, alors que comme je connais le sujet, je sais d'où ça vient. je me dis, mais c'est dommage, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pour avoir l'air plus intelligent, mais en fait, ça donne pas l'air bête de citer ses sources, au contraire. Et ensuite, les illustrations, c'est aussi le format blog où j'avais l'habitude pendant longtemps de entrecouper, en fait, pour retenir l'attention des gens sur leur téléphone. Faut être, si tu fais un énorme pavé de texte, souvent c'est un peu difficile. Moi, j'avais l'habitude d'entrecouper avec des gifs animés ou avec des trucs comme ça. Et puis sur ce projet-là de blog, je m'étais dit, mais en fait, voilà, j'aime bien dessiner aussi, je vais combiner mes passions. Et comme ça aussi, ça permet d'avoir l'illustration parfaite plutôt que parfois c'est dur de la trouver. Là, ouais. on l'a fait soi-même. Et après, le tout, c'est aussi que j'avais une volonté de faire un livre qui soit super accessible parce que j'ai pas la prétention non plus d'avoir tout inventé. Il y a beaucoup de théoristes féministes, de théoristes et de chercheurs et chercheuses sur les questions de masculinité, de sociologues, de chercheurs et chercheuses de théorie queer qui sur le travail desquels je m'appuie. Il y a quelques trucs qui sont mes petites réflexions originales à moi dans le bouquin, évidemment, mais il y a aussi beaucoup un travail de vulgarisation que je fais. Et je conçois un peu ce livre comme un outil de propagande politique aussi, et que je voulais du coup accessible parce que ces sources, ces chercheurs et chercheuses que je cite ont parfois fait des thèses passionnantes, mais qui font 500 pages et que tout le monde ne va pas aller lire. Et du coup, moi, je me sentais la capacité, parce que ça a été mon métier journaliste assez longtemps, je me sentais la capacité de transmettre ça de façon digeste, sans non plus dénaturer le propos. Et voilà, du coup, j'ai voulu faire un bouquin avec des dessins, avec des ressources, avec des chapitres courts aussi, pour que globalement, ils se lisent le plus facilement possible, parce que aussi en face, les personnes qui écrivent des livres réac sur les woke, sur
LGBT,
par exemple, il y en a beaucoup, ils sont super accessibles parce qu'ils s'embarrassent pas de sources, ils inventent tout, ils ont des discours simples, voire simplistes. Et en fait, nous aussi, on a besoin de s'adresser au plus grand nombre, je crois.
Mais en plus, je trouve que dans ton écriture, dans le style de ton écriture, alors moi j'aime bien parce que évidemment on sent le militantisme derrière, on sent l'humour, et c'est vrai que c'est assez percutant en fait. Les arguments sont assez percutants, enfin assez mouches, et d'un coup, enfin le nombre de fois, moi je l'ai noté de partout en me disant mais c'est brillant. C'est une super aide pour quand on est en hétérolande et qu'on nous prend la tête, c'est une très bonne aide d'arguments. De réponse quand on a envie, et quand on n'a pas envie, on dit rien. Il y a aussi une méthode que tu utilises, c'est un peu inverser une méthode d'activiste en fait. C'est un peu d'inverser les rôles, d'inverser les choses. En gros, par exemple, on parle du consentement. Quand tu parles du consentement, tu dis que les hommes insistent lourdement auprès des femmes, et tu termines le paragraphe par cette phrase qui est juste un super point final. En réalité, les hommes comprennent les signes de refus, surtout lorsqu'ils viennent d'autres hommes. Comme quoi, le problème de ces hommes-là, c'est que d'un coup, quand d'autres hommes le font, voilà. Et du coup, ça t'est venu comment, cette démonstration parfaite de l'inversement, en fait ?
Bah, en fait, je sais pas exactement comment ça m'est venu, mais c'est au centre du livre et globalement des études sur les masculinités. C'est que en général, on parle pas des hommes en faisant en tout cas des généralités, on les considère comme la position naturelle par défaut, et tout le reste. Tout ce qui n'est pas un homme hétérosexuel, blanc, cisgenre, valide, c'est une particularité. Les hommes, eux, ils sont pas particuliers, ils sont juste normaux. Du coup, si on retourne un peu le projecteur et qu'on le met sur eux et qu'on les observe comme des créatures avec leur particularité, avec leur bizarrerie et leur façon de faire bien particulière et leurs propres intérêts à défendre, là, on observe vraiment qu'il y a... il y a beaucoup de matière à dire, quoi. Et c'est souvent comme ça que je pense que j'ai trouvé de la matière pour le livre. C'est en retournant la question. Et pour prendre un autre exemple, je voyais... beaucoup de femmes qui disent ah là là, mais c'est dingue la confiance en eux des hommes, parce que les hommes, quand on est hétéro en particulier, quand ils sont face à une femme, ils vont faire ce qu'on appelle le mansplaining, qui donne son nom au blog la m'expliqueuse à la base,
qui vient d'un article de Rebecca Solnit, hein.
Voilà, et ils vont venir t'expliquer des choses que tu sais déjà, que tu sais mieux qu'eux, parce que toi, tu as un peu étudié la question, et eux, ils débarquent, ils connaissent rien au sujet, mais ils sont persuadés d'en savoir plus long que toi. Et du coup, on est beaucoup de femmes à se dire, mais quelle confiance en soi, c'est incroyable, comment ils peuvent débarquer, voilà. Et moi, ce truc-là, que je comprends tout à fait, ça m'a... C'était pas non plus tout à fait normal pour moi. Enfin, il y avait un truc qui me dérangeait là-dedans, et j'ai mis très longtemps à bien l'articuler, parce que en fait, je connais énormément de mecs aussi qui n'ont pas du tout confiance en eux la plupart du temps dans leurs interactions, parce que ils osent pas aller demander une augmentation à leur patron, ils osent pas s'imposer dans tout un tas de situations. Et en fait, le truc qui fait que cette perception est biaisée pour les femmes, c'est que d'un coup face à une femme, ils osent. En fait, ils ont de la confiance en eux face aux femmes parce que depuis toujours, en fait, on leur a expliqué que qu'ils savent mieux, qu'ils sont supérieurs, etc. Et ça, en fait, c'est un truc de domination qu'on retrouve dans plein d'autres choses, évidemment. Des blancs qui vont expliquer aux personnes racisées comment combattre le racisme, des riches qui vont expliquer aux pauvres, aux précaires comment gérer leur argent, etc. Et d'un coup, ils ont sur ce sujet-là, ils ont une confiance infinie. Mais ça ne veut pas dire que en fait, ils ont une confiance en eux infinie dans tous les autres cas, notamment par rapport à leur propre masculinité. Les mecs hétéros, en général, ils sont pas très en confiance, vu qu'ils sont toujours sur la défensive dessus. Ils doivent toujours faire attention à la défendre par rapport à l'accusation infamante d'être pédé. Il faut surtout pas avoir l'air pédé, y compris ceux qui se disent gay-friendly, tout ça. Ils vont être quand même... ouais, ça commence par... ouais, alors moi, je suis pas gay, mais je respecte complètement. Hein, mais je suis pas du tout. Attention, surtout.
Voilà, j'avais dit merci beaucoup. Démonstration implacable. Moi, je pense que...
Après, si t'accuses de misandrie, tu pourras dire que c'est ma faute, du coup.
Oh, bah, je pense, tu vois, qu'on a tous, toutes et tous... en fait... Moi, l'article de Rebecca Solnit sur le mansplaining, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans un dîner avec des amis hétéro-bourgeois blancs. Et à un moment, je parle du projet Visible et un mec d'une cinquantaine d'années qui n'a pas besoin de travailler m'explique que c'est n'importe quoi parce qu'on a obligé, ils ont toujours eu des figures à qui se référer, toutes les personnes, les lesbiennes, les trans, on a de toute façon. Et du coup, il ne me le dit pas calmement, il me le dit évidemment... dans une agressivité, une violence, une colère, comme s'il fallait qu'il m'impose ça. Et j'étais, mais encore une fois, ébahie de me dire, mais d'où tu parles, en fait? Si je te dis qu'on est discriminé, me dis pas qu'on n'est pas discriminé. Si je te dis qu'on n'a pas de référent, que j'ai grandi sans référent, j'ai grandi sans référent, ne mets pas ma parole en doute. Et non, il fallait qu'il prenne cet espace. Donc j'ai su répondre, des personnes autour de moi alliées ont su répondre. J'ai pas non plus passé une très bonne nuit. Le matin, j'étais encore contrarié en me disant « J'en ai marre de ces incursions de violence en moi. » J'ai relu Rebecca Solnit, ça m'a fait un bien fou. Je pourrais relire maintenant des parties de ton livre qui me feront aussi un bien fou. Et moi, ça me vient une idée, c'est que je me dis quand même le rapport de l'homme et de l'espace est différent du rapport de la femme et de l'espace ou du rapport de n'importe quelle autre personne qui n'est pas un homme blanc, c'est genre valide et bourgeois par rapport à l'espace, l'espace extérieur ou l'espace de discussion.
Ouais, bah ouais, il y a, enfin, et pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai pu constater en transitionnant, pas que je savais sur le papier que il y avait quand on est une femme, on a davantage peur des agressions, par exemple dans la rue ou quoi, mais c'est tout autre chose de le vivre. Par exemple, l'autre jour, j'ai reçu chez moi un technicien pour installer la fibre et j'ai dû me poser une question que je ne me posais absolument pas avant ma transition, qui était comment je me protège si le mec veut m'agresser, je suis seul chez moi avec lui. Voilà. Et d'un coup, même chez toi, au final, c'est plus forcément si safe. Il s'est rien passé, hein, mais j'avais cette petite question et j'ai pris quelques précautions. Et c'est la même chose quand je rentre tard le soir chez moi. C'est la même chose dans tout un tas de situations. Et puis qui vont, du coup, là je prends l'exemple des agressions et la peur de la violence qui est le plus extrême, mais il y a aussi le manspreading, c'est-à-dire la façon de s'asseoir les jambes écartées et de prendre un maximum de place, notamment dans les transports en commun, qui est incroyablement gênante quand même et très, très révélatrice du fait que pour beaucoup d'hommes hétéros, l'espace public leur appartient. Mmh. Et en fait, il n'y a pas que l'espace public qui leur appartient. Il y a Il y a l'espace médiatique qui est, entre guillemets, naturellement à eux. Et il y a aussi les débats d'idées où, au final, c'est naturellement à eux. Ils ont le droit de s'exprimer sur absolument tous les sujets. Parce que, voilà, ils se sentent à l'aise sur tout un tas de sujets, même s'ils les maîtrisent pas, quoi.
Bah, Alice Coffin, qu'on a reçue à la sortie du Génie lesbien, elle en parle super bien sur les débats d'idées. Alors, j'ai l'impression que ça s'améliore légèrement, mais à chaque fois que je dis ça, je me dis, bon, je suis pas sûr. J'ai une autre question par rapport au livre. Quand tu l'as sorti, tu as fait des lectures, tu as fait des présentations en librairie.
Ouais.
Est-ce que... Parce que du coup, comme ton livre parle des hommes fragiles, toxiques, dominants, est-ce que tu as eu des retours de ces personnes-là, en fait?
Alors, le premier truc, c'est que globalement, j'ai quand même une majorité dans les présentations de mon livre. En général, il y a une majorité de femmes qui viennent et c'est le cas pour en fait toutes les présentations de livres féministes en général. Mais j'ai un peu plus d'hommes que la moyenne. Mais par exemple, je sais plus, l'autre fois c'était à Angoulême, il y avait je sais plus 30 ou 40 personnes qui sont venues dans la salle, et il y avait 5 ou 6 mecs, et les organisatrices m'ont dit c'était un record, quoi. Parce que je parle de masculinité, j'arrive à attirer une petite minorité de mecs qui, en tout cas, un peu plus que la moyenne des féministes. Et après, j'ai des retours variés. Il y a quand même, en général, c'est les gens qui viennent, c'est plutôt pour des personnes, on va dire, déjà convaincues qui ont un. Qui me remercie à la fin, enfin ça se passe super bien et tout. Après, de temps en temps, il y a aussi quelques cas où je me suis retrouvé face à des hommes qui sont, on va dire, beaucoup plus dubitatifs et qui sont venus un peu pour m'apprendre le sujet.
Pour prendre l'espace une fois de plus, en fait.
Exactement. Et notamment. Je pense à Angoulême, il y a un homme qui m'a, il a commencé à me poser une question qui était un peu agressive sur le fait que je voulais la guerre des sexes ou je sais plus quoi. Et puis j'ai à peine commencé à lui répondre trois mots qu'il m'a interrompu pour dire voilà. Et ça, c'était bon. Il se trouve que le mec était dans une salle remplie de 30 féministes qui lui sont tombées dessus. donc c'était pas trop un problème, mais ça montrait, enfin évidemment ces gens-là existent aussi, mais après globalement, moi un truc que j'ai compris en entrant davantage sur le débat public, le débat d'idées, machin, tout ça, notamment en débattant sur les questions trans, etc., et en voyant tous ceux qui écrivent des tribunes, sur le transactivisme et le wokisme, etc., c'est que nous, on essaye de surveiller ce qu'ils font, de lire ce qu'ils font, de le questionner, d'étudier leurs arguments et tout ça. Eux, ils n'ont pas lu mon bouquin, en fait. Ils lisent généralement pas nos livres. Ils ont un engagement avec les idées qu'ils qualifient de woke, qui est extrêmement superficielle. Ils ont jamais compris ce que ça voulait dire intersectionnalité. Ils en parlent à longueur de journée, mais ils savent pas ce que c'est.
Même le wokisme, quand ils parlent du wokisme, ça me fait rigoler.
Oui.
Ils savent pas, quoi.
Ouais. Et c'est une espèce de fantôme qu'ils ont inventé pour se faire peur à eux-mêmes.
Super définition.
Voilà. Et pour reprendre le cas de Alice Coffin, elle a été, on va dire, beaucoup critiquée sur son livre Le Génie lesbien à cause d'un passage dans lequel elle parle de sa volonté de ne lire que des autrices féminines, des voir des films de réalisatrices féminines, etc. Et du coup, ce passage a été pris en photo dans le bouquin par quelqu'un qui a fait créer toute une polémique. Oh mon Dieu, c'est terrible ce qu'elle fait, etc. C'est de la misandrie. Il se trouve que ça, c'est arrivé quelques mois après la publication de son bouquin. Et que ma théorie à moi, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas lu son bouquin. Et c'est seulement parce qu'à un moment, Alice Coffin, elle les a quand même pas mal emmerdés, ces gens-là, à la mairie de Paris notamment, qu'il y en a un qui s'est dit, je vais aller lire son bouquin et chercher des passages à surligner et créer une polémique, etc.
Il y a plus fort que ça dans son livre.
Ouais. Et moi, je suis pas la mairie de Paris, je suis pas encore assez dérangeante pour que quelqu'un dans le, entre guillemets, le camp d'en face se dise, je vais aller lire son bouquin pour voir toutes les horreurs qu'elle raconte. Non, globalement, ils s'en foutent de ce qu'on raconte, en fait.
Et alors, juste pour revenir sur l'article précis d'Alice Coffin, évidemment, elle dit ça. Elle dit j'ai fait des études où je n'ai eu que des livres d'hommes, que des films d'hommes. Elle dit ça. Et à la fin de l'article, elle dit, je le dis vraiment aux éditoristes, mais je pense que les personnes qui écoutent Visible le savent. Elle dit, à la fin, ils pourront revenir, les hommes. Et moi, j'étais un peu, entre guillemets, le référent LGBTQIA+, dans mon espèce de coworking. Et évidemment, il y a toujours des petits hétéros un petit peu malins qui viennent me voir. Tu te rends compte, Alice Coffin, il dit ça. Ah, tu te rends compte. Et puis, tu vois, ils veulent en découdre. Et je me souviens d'un en particulier, je tairai son nom. Je me tourne à qui l'écoute. Et je lui dis, mais dis donc, Jérôme, t'as lu combien de livres de femmes? Il a bugué, il est parti. Donc, en fait, la réciprocité, elle fonctionne. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais justement des identités trans. Et en fait, en ce moment, dans l'actualité, en France, pas qu'en France, dans l'Occident, aux États-Unis, un peu partout, il y a une sorte de mouvement global anti-trans. Il y a une sorte de ce mouvement qui s'en prend vraiment aux personnalités, aux personnes trans et tout. Est-ce que... comment tu fais, toi, pour t'en prémunir au mieux ?
Moi, ma solution face à ça, c'est de militer, en fait. C'est ce qui me permet de canaliser la colère et de ne pas me sentir totalement impuissante face aux grosses vagues de transphobie qu'on se prend quotidiennement dans la figure si on suit l'actualité. Sans parler des vagues de la transphobie qu'on peut se prendre au quotidien dans notre vie de tous les jours. Mais il y a vraiment, aux États-Unis, depuis le début de l'année, je crois que c'est plus de 400 lois anti-trans qui m'ont été proposées dans différents États. Et aujourd'hui même, au moment où on enregistre, c'est dans l'État, je crois, Missouri, si je ne confonds pas, je ne suis plus sûr. Et ils viennent, il y a beaucoup de lois qui ciblait les enfants trans et parce que ce serait terrible, on force des enfants à transitionner soi-disant et on a beaucoup une grosse panique morale sur le sujet et beaucoup de fausses informations qui circulent sur le sujet. Là, ils ont carrément fait une loi qui interdirait les traitements hormonaux aux adultes dans cet état aussi. Parce que, en fait, on sait bien que les enfants, c'est leur angle d'attaque pour être acceptable, mais au final, ils veulent juste exterminer toutes les personnes trans. Ils veulent plus qu'on puisse exister dans la sphère publique. Ils veulent plus qu'on puisse avoir accès à des soins qui sauvent nos vies, en fait. Et bref, il y a beaucoup de choses assez violentes qui se passent comme ça aux États-Unis, au Royaume-Uni, aussi dans les pays de l'Est. Le fait est que moi je milite avec un collectif qui s'appelle Toutes des femmes. Notre façon principale de militer, c'est de produire un contre-discours face à tout ça, de produire, on fait des vidéos, des contenus écrits, on fait aussi pas mal de relations presse, en fait, des interviews, des podcasts, etc. On essaye de fournir des de l'aide aux journalistes qui peuvent nous contacter pour avoir des infos fiables sur ces questions-là. Et voilà, en fait, c'est, je crois que moi, ça me donne vraiment l'impression de, même si je ne sais pas du tout si on est en train de gagner, je me sens pas impuissante. Mmh. Et à un titre personnel, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien, c'est déjà ça.
Je trouve ça beau, je trouve ça bien ce que tu dis. Je trouve ça beau. On arrive un peu à la fin du coup de l'émission et je voudrais encore dire un truc sur ton livre parce que je l'ai, enfin vraiment, ceux qui n'ont pas lu, celles et ceux qui n'ont pas lu, lisez-le, c'est brillantissime, c'est génial, d'arguments, de sources, de références et c'est aussi drôle. Et surtout, moi ton livre il me fait penser à l'introduction d'un bon programme politique, l'abolition du genre. Est-ce que ça va être ton prochain ouvrage?
Alors, non, ce ne sera pas le thème du prochain ouvrage, parce que, enfin, encore que je n'ai pas écrit de prochain ouvrage, donc tout peut changer encore. mais clairement, quoi que je fasse, cet horizon, je pense, restera dedans, parce que Ouais, si je peux expliquer un tout petit peu ce que j'entends par l'abolition du genre. L'idée, c'est que, en fait, on dit beaucoup que le féminisme, c'est un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de présenter les choses, parce que par exemple, on ne présenterait pas le communisme comme un combat pour l'égalité entre les patrons et les prolétaires, mais plutôt l'abolition de ces deux classes, qu'il n'y ait plus de différence. Et en fait, dans la lignée de féministes radicales, matérialistes, comme Christine Delphi, Colette Guillaumin, Guillaume Wittig, n'importe quoi, Monique Wittig, j'ai aboli son genre. Là. je pense que ce qui donne un sens en fait aux termes et aux classes hommes et femmes, c'est le système de domination et d'exploitation hétéro-patriarcale. Et que si on met à bas ce système, bah, y aura plus vraiment de classe des hommes et de classe des femmes. Y aura des personnes qui ont la capacité d'enfanter, et il y aura des personnes qui ont des poitrines, et il y aura des personnes qui ont des pénis, et des personnes qui perdent leurs cheveux, et etc. Bien sûr, toujours, mais ça n'aura plus valeur de une valeur aussi importante qu'aujourd'hui, au point qu'on organise toute notre société sur la ségrégation entre ces deux classes qui ne doivent pas utiliser les mêmes toilettes et les mêmes vestiaires, etc. Et c'est ça que j'entends par abolir le genre. Voilà, pour la version courte.
Un dernier mot.
Peut-être... Préciser quand même que je parle beaucoup des hommes en général dans ce podcast que vous venez d'écouter et je fais un peu comme si c'était un groupe uni, alors que bien évidemment, et j'en tiens compte dans le livre, être un homme, c'est pas la même chose selon qu'on est blanc ou pas, selon qu'on est cis ou pas, qu'on est hétéro ou pas, valide ou pas, riche ou pas, etc. Sur tout un tas d'axes, ça peut changer beaucoup les choses. Et dans le bouquin, j'essaye en fait d'avoir, avec peut-être un peu plus de subtilité que dans ce podcast où les choses vont vite à l'oral, j'essaye de tenir compte de tout ça en fait, sans non plus totalement partir tellement dans les détails et les subtilités en permanence qu'on oublie qu'il y a... Enfin, le mot homme a un sens, la classe des hommes a un sens, et il y a quelques trucs, on peut faire quelques généralisations quand même de temps en temps, quitte à quitte à faire un peu se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est pas de ma faute si les hommes sont en porcelaine. Voilà.
J'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Daisy.
Merci à toi.